battre.
Une émission aux couleurs féministes avec des éclats de lutte politique humaniste. Une émission qui n'en veut pas aux hommes. Une émission qui aime les hommes, les vrais. Ceux qui veulent arracher avec nous le bonnet phrygien sur la tête du patriarcat. Le prendre, le retourner et le fourrer de nos têtes écrasées pour s'accaparer le pouvoir de penser, de dire, de voir, de danser, de boire et de baiser sans jugement. Une émission qui défrige le patriarcat. Il n'y aura pas de lutte sans lutte pour le droit des femmes. Ce mois-ci, on va parler des pères et plus particulièrement du nom du père. C'est une question à laquelle je me suis longtemps confrontée sans jamais l'analyser vraiment. La chronologie de ma vie m'invite à re-questionner plus intimement ce sujet. Je viens de perdre mon beau-père, le deuxième mari de ma mère. Il avait passé 30 ans de sa vie auprès de ma mère comme compagnon de route. Il est décédé il y a peu. 10 ans après, quasi jour pour jour, à quelques heures près du décès de mon père. Quasi jour pour jour, à quelques heures près du jour de mon anniversaire. Tous les deux donc. Les patronymes de mon père et de mon beau-père sont des homonymes quasi parfaits à un accent près. Comment ne pas se sentir directement, intimement, viscéralement attiré par le dernier ouvrage de Vanessa Springora intitulé Patronyme. Ouvrage autobiographique, Vanessa Springora y raconte son enquête sur un secret de famille qui se fera jour peu de temps après le décès de son père. Elle remonte le temps, découvre le passé déroutant d'un grand-père mystérieux et la vérité sur son nom. À l'occasion de la Comédie du Livre de Montpellier, j'ai eu l'occasion de lui poser quelques questions. Nous commencerons donc cette émission avec son interview. Vanessa Springora, vous présentez à la Comédie du Livre de Montpellier votre dernier ouvrage intitulé Patronyme. Nous sommes nombreux et nombreuses liés à cette problématique du nom et je vous avoue que plus j'en ai su sur votre livre, plus je me suis sentie proche et j'ai été vraiment en pleurs à la fin de la lecture. Par ailleurs, je porte le nom de ma mère depuis mes 18 ans. J'ai peu vu mon père, enfin, il y a eu des grosses périodes d'absence et il y a 10 ans, on m'appelle, pompe funèbre, pour me déclarer le décès de mon père. J'arrive et je me rends compte qu'il vit dans sa voiture avec au milieu de plein d'objets. Donc, ouais, j'ai senti quelque chose d'assez... Je pense que c'est finalement assez commun, on se sent toujours un peu seul dans ces histoires-là, mais je crois que finalement c'est assez commun. Alors patronyme, ça désigne à la fois le nom du père, notre nom de naissance c'est le nom d'un homme. Le patronyme, c'est aussi l'héritage, le patrimoine, et peut-être à la racine de tout, le patriarcat. Il y a dans votre livre, au-delà de votre histoire personnelle, la colère devant ce monde patriarcal, ce monde qui impose certes aux femmes une certaine place, mais qui impose aux hommes une manière d'être. Il me semble que votre livre parle aussi beaucoup de ces injonctions qui font du mal aux hommes. Est-ce que je me trompe ?
Non, vous avez tout à fait raison, et ça fait plaisir que vous le... Déjà que vous le perceviez de cette manière-là, parce que je crois que c'était un peu surprenant pour certaines de mes lectrices, après le consentement d'avoir écrit un livre qui soit centré autour de figures masculines, alors que pour moi, il y a une cohérence tout à fait profonde. Je crois que c'est aussi important, quand on lutte contre le patriarcat et ses effets délétères, de s'intéresser à ce que le patriarcat fait peser aussi sur les hommes, et d'ailleurs en premier lieu. Et c'est ça qui m'a intéressée, parce que vous auriez pu rajouter aussi dans la liste des racines communes avec le mot patronyme, il y a la patrie. Et la patrie aussi qui va jouer un rôle important dans ce livre et dans cette histoire, parce que c'est une histoire qui est traversée par la guerre. Donc ça me touche aussi que vous me racontiez votre histoire, parce que j'ai découvert, enfin je me suis rendu compte il y a très peu de temps au moment de la sortie de mon livre, que mes deux meilleures amies portaient tous les deux un matronyme, c'est-à-dire qu'ils portaient chacun en fait le nom de leur mère pour des raisons différentes. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange quand même que moi qui ai ce rapport déjà très conflictuel avec mon nom de famille, qui est donc le nom de mon père et de mon grand-père, que mes meilleures amies en fait portent le nom de femme. Mais en réalité, vous avez aussi raison de rappeler que de toute façon, quoi qu'il arrive, on porte toujours le nom d'un homme, parce que même les matronymes sont toujours le nom des pères. C'est pas les noms des époux, c'est le nom des pères. Donc les femmes n'ont pas de nom, c'est ce que j'explique, c'est la prise de conscience que j'ai eue aussi au fil de cette enquête. C'est que ça nous octroie certainement une forme de liberté, mais ça nous en a retiré aussi beaucoup pendant des siècles, de pas être inscrite dans le champ social par un nom. Et donc qu'est-ce que ça veut dire pour moi aussi de laisser mon nom, de faire quelque chose de ce nom, qui est une imposture par ailleurs et une invention. Ça m'a posé beaucoup de problèmes, comme ça m'a beaucoup posé de problèmes d'ailleurs de sortir de l'anonymat et de sortir ou d'accéder à une forme de renommée. Enfin, on est toujours dans le même champ lexical. Mais en tout cas, les hommes, moi je me suis aperçue que j'étais le produit de cette histoire liée à ces deux figures masculines, qui sont donc mon père et mon grand-père, qui est en fait tragique de façon différente, parce qu'il y a eu, comme vous le dites, d'abord une première injonction pour mon grand-père qui a été celle d'être soldat, de choisir un camp, de faire des choix. Des choix de loyauté qui étaient liés à son origine culturelle, puisqu'il était en réalité allemand tout en étant citoyen tchèque. Donc comme 99% de sa communauté, il s'est précipité dans les bras d'Hitler. Tout ça aussi a été évidemment orchestré par l'exaltation non seulement du nationalisme, mais aussi des valeurs sportives, de la masculinité, de la virilité, et donc de l'obligation de défendre la patrie, défendre la nation. Et puis pour mon père, au contraire, ça a été le refoulement de son homosexualité, naissant justement et grandissant dans une famille très hétéronormée, avec un père pour qui, évidemment, il était hors de question d'avoir un fils homosexuel. Donc toutes ces assignations qui pèsent sur les hommes et qui génèrent chez chacun des formes de violence différentes, elles m'intéressent beaucoup, et je pense qu'elles font partie aussi du combat et de la lutte féministe.
Alors justement, cette nécessité vitale pour les hommes de faire valoir leur virilité de façon très ostentatoire, gros muscles, grosses voitures, motos dans votre histoire, grosses voix, est-ce que la mythomanie de votre père essayait peut-être pas de répondre à ces injonctions, à se créer un statut qu'il pensait ne pas avoir assez pour être reconnu ?
Oui, il y a les deux dimensions chez mon père. Il y a à la fois le fait de porter la honte en étant un enfant de la guerre, puisqu'il est conçu à la fin de la guerre et il naît à la libération. En fait, il y a le poids de la honte d'abord de découvrir, je pense comme il l'a découvert certainement très jeune, qu'il était le fils d'un ex-nazi. Et donc, grandissant en France, dans le pays des vainqueurs, entre guillemets, il était du côté des vaincus et du côté du mal, par son père. Donc déjà, il y a cette honte-là et la nécessité de remplacer ce premier récit originel qui est insupportable pour lui et qui en plus est inavouable, puisque la découverte qu'il en a faite, c'est certainement par les mêmes photos que moi j'ai trouvées, mais il n'y a jamais eu de récit qui a circulé entre son père et lui. La vérité n'a jamais été formulée, n'a jamais été verbalisée. Donc il y a à la fois un non-dit et une suspicion d'une honte qui est insoutenable. Alors ça fabrique chez lui cette nécessité de remplacer ce premier mensonge originel d'ailleurs de mon grand-père sur son identité véritable, de la remplacer par effectivement d'autres mensonges, un empilement d'autres fables sur ses origines, et qui doivent toujours être prestigieuses, comme vous le dites. Donc il y a l'idée de redorer une sorte de blason, d'avoir une ascendance qu'on peut dire et qui en plus serait soit noble, puisque mon père s'est d'abord inventé des ascendances aristocratiques, puis ensuite s'inventer aussi une vie clandestine, parce qu'il n'y a pas seulement ses origines, mais ensuite il a inventé tout un tas d'activités parallèles qui étaient liées à l'espionnage ou alors à des fonctions ministérielles, mais toujours du côté de la clandestinité. Et ça, c'est évidemment lié aussi au fait que, enfin pour moi, l'interprétation que j'en fais rétrospectivement, c'est lié au fait que son propre père était de fait un clandestin, puisqu'il vivait sous une fausse identité pour maquiller son passé obscur.
Alors vous parlez aussi de l'accumulation des objets chez votre père, en lien aussi avec le syndrome de Diogène. Est-ce que vous pensez qu'il y a comme une nécessité de combler sa solitude par ces objets? Un peu comme le père de Hélène Gaudier, que vous rencontrerez demain autour d'une table ronde, qui dans son livre Archipel parle aussi de son père qui a accumulé énormément de choses, mais qui semblait emmuré dans une espèce de solitude existentielle.
Oui, c'est vrai, j'ai trouvé très beau ce passage dans le texte d'Hélène Gaudy. Évidemment, ça m'a énormément touchée, parce que elle pose plusieurs hypothèses que j'ai posées moi aussi. Est-ce que cet empilement, cette accumulation obsessionnelle d'objets, c'est une façon de se raccrocher au réel quand on se sent un peu être en phase de dissolution, quand de disparition, ou est-ce que c'est justement une façon de s'enfouir sous les objets? Vous parlez d'emmurement, mais effectivement il y a l'encerclement, l'emmurement, et il y a aussi le fait de disparaître aussi sous cette accumulation.
Dans les mausolées.
Oui, et c'est ça, c'est comme se fabriquer une espèce de sépulture, de tombe qui serait constituée par tous les objets qui font sens, qui ont une sorte de symbolique très personnelle, très intuitive pour ces deux personnes. La grosse différence entre nos deux pères, celui d'Hélène, était quand même un artiste et un poète, donc quelqu'un qui quand même transcendait ou sublimait ses traumas de jeunesse, liés lui aussi à son père d'ailleurs, d'une autre manière, enfin artistiquement, ce que mon père n'a jamais réussi à faire, parce qu'en fait toute sa vie professionnelle, comme sa vie sentimentale, affective, même amicale, sociale, ont été des échecs complets. Donc, chez mon père, ça relevait vraiment davantage de la psychose, plus que, je pense, le père d'Hélène Gaudy. Et donc il y a quelque chose de très, qui est lié vraiment à la maladie mentale et qui s'est aggravé et qui a pris cette forme du syndrome de Diogène, mais qui était déjà en germe chez lui puisqu'il a toujours eu cette forme de collectionnite aiguë et ça correspondait à quelque chose de très, très maniaque chez lui, très obsessionnel, le fait d'accumuler. Et je pense que ça répond certainement à une angoisse chez des personnes qui n'ont pas de socle au départ et qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose de concret. Donc l'objet, la matérialité de l'objet répond au sable mouvant sur lequel ils ont grandi.
L'idée de combler, de poser une structure.
Exactement.
Je vous ai entendu dans différentes interviews parler de l'inquiétude que vous avez face à ce monde d'aujourd'hui, en proie à de nouvelles guerres, au réchauffement climatique, lié à un système économique boulimique. Pensez-vous malgré tout que la dévirilisation de la société soit tout de même envisageable? Que les changements opérés ces dernières années dans les manières de percevoir les effets du patriarcat puissent prendre leur envol et dessiner peu à peu un autre paysage, une autre manière d'être, une façon de ne pas être renié justement par ces injonctions?
Bon, alors on pourrait croire qu'actuellement on en est loin, qu'on est même en pleine période de régression, voire de backlash, comme disent les féministes. C'est vrai que ça rend plutôt pessimiste ce qui se passe à l'Est comme à l'Ouest, comme dans beaucoup, beaucoup de pays aujourd'hui. Le retour du fascisme, évidemment, s'appuie toujours sur cette, j'en suis convaincue, cette angoisse de dévirilisation d'une partie de la société. Mais j'ai envie de rester quand même optimiste parce que malgré tout, ce à quoi on a assisté depuis le début du mouvement MeToo, ça a été quand même une prise de conscience, évidemment, chez les très jeunes et justement de ces assignations de genre, de stéréotypes construits culturellement, historiquement, socialement. Et ce besoin de tout envoyer balader, de déconstruire et de raconter une autre histoire en recommençant autrement, de nouvelles relations, y compris ce que Irène Théry par exemple appelait la nouvelle civilité sexuelle dans les relations amoureuses et sexuelles, tout ça, moi, je me dis forcément, va laisser une trace. Mais je crains qu'on doive passer par une forme de radicalité extrême avant de recommencer. À partir du travail qui a été fait là depuis 2017. Mais je ne suis pas sûre que ça va être tout de suite. Je crains qu'on se prenne une vague, ou plutôt un mur en fait, très violent dans la figure pendant quelques années. Mais néanmoins, cette génération-là, elle a vécu cette prise de conscience. Elle a déconstruit beaucoup de choses, elle est incroyablement cortiquée, je veux dire structurée politiquement, comme ma génération ne l'était absolument pas. Et je place toute ma foi dans cette génération-là, et je pense que c'est eux qui vont faire cette révolution. Mais je ne sais pas si on va les laisser la faire tout de suite.
Bah, on espère qu'ils s'emparent et puis qu'ils aient suffisamment de force pour résister au backlash qui risque d'arriver. Merci beaucoup, Vanessa Springora, d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Il y a 10 ans, mon téléphone, éteint depuis 2 jours, alors que j'étais en vacances en Espagne, sonnait et délivrait un message succinct de pompe funèbre que je devais rappeler assez urgemment. J'apprenais plus tard par le commissariat de Lorient qu'il avait délégué 2 gendarmes que j'avais manqué en partant en vacances pour m'annoncer la mort de mon père. Les pompes funèbres, malgré l'illégalité de leur appel, s'inquiétaient de n'avoir aucune nouvelle des descendants de ce monsieur mort dans sa voiture. Et pour cause, j'avais une relation très distanciée avec lui, mon frère inexistant et le reste de la famille pas bien plus proche. Je découvris en arrivant en Bretagne la camionnette dans laquelle il vivait sur le terrain de personnes extrêmement démunies. Mon père était en voie de clochardisation, il n'y avait pas de doute. Face au choc de l'annonce, il fallait faire face à cet autre choc, de la déchéance sociale du père. Vous ne vous êtes pas trompé d'émission, vous êtes bien sur les chemins d'Olympe, de Gouges évidemment. L'émission sur les luttes féministes n'a pas glissé insidieusement vers un journal intime, radiophonique, mais les histoires personnelles et parfois intimes peuvent être de bons ressorts à certaines analyses. Je me suis sentie proche de ce que décrit Vanessa Springora quand elle découvre l'appartement dans lequel son père est décédé. Comment l'homme que j'avais craint des années, comment cet homme qui reprochait avec violence que les choses ne soient plus à leur place, comment cet homme avait-il pu se retrouver dans un tel état de vulnérabilité ? Mon père ne faisait déjà plus partie de mon quotidien depuis de nombreuses longues années. Aussi, son décès changea un peu ce quotidien. Pourtant, je me suis sentie désappointée immédiatement, sans repère. Je ne pensais pas que ce père ait pu m'en avoir donné. Et craintive, ce que je n'avais plus ressenti depuis que j'avais quitté son domicile, presque 20 ans auparavant. Quand on m'a annoncé son décès, j'ai d'abord cru un suicide et j'ai senti la colère gronder très silencieusement en moi et brûler lentement toutes mes articulations. Je me suis dit que s'il s'était suicidé la nuit de mon anniversaire, on pourra toujours m'attendre pour les funérailles, je ne braverai pas ce dernier affront. Mais il ne s'agissait pas de suicide. Son cœur s'est arrêté, en pleine nuit, après un dernier cri de colère. Une dernière tentative pour se faire reconnaître. Une dernière tentative pour se faire entendre. Une dernière tentative pour se faire aimer. Car il souffrait de ne pas être aimé. Il souffrait de ne pouvoir le dire vraiment. Un homme est-il vraiment un homme à réclamer tant d'amour ? Il souffrait alors avec la colère inchangée d'un petit garçon qui réclame les bras en hurlant. Et lorsqu'on hurle depuis plus de 60 ans, le cœur finit par lâcher. Il n'a pas souffert d'une mère mal aimante, mais d'un père pour qui toute expression de sensibilité serait de la sensiblerie, de la niaiserie de bonne femme, la justification d'une bonne gifle pour redresser tout ça. Alors, pour ne pas manquer son père, il n'en a jamais rien montré. Peut-être parce qu'il ne se sentait pas vraiment homme comme son père le lui dictait, il en faisait plus, hurlait plus, se montrait dur au mal, plus que les autres, alors qu'en fait, il était extrêmement douillé et ne supportait pas la douleur. Et il tapait plus. Enfin, plus sur les femmes, sur sa femme, sur ma mère, pour faire régner l'ordre, parce que c'est comme ça qu'un homme se fait respecter, croyait-il. Voilà comment des siècles et des siècles de patriarcat façonnent le cœur des hommes, surtout celui des plus sensibles. Les façonnent, les enserrent, les étouffent jusqu'à ce qu'ils s'éteignent. Si la chanson « L'Estaca » du catalan Luis Llach parle de l'oppression franquiste et crie à l'unité pour s'en libérer et atteindre la liberté, elle me semble aussi bien parler de la lutte pour se libérer de cette oppression large que subissent les hommes, cette oppression qui muselle l'expression de leurs émotions et les réduit au seul cri de la rage et de la colère. Comment ne pas y penser quand on entend dans la version française de Mark Robin dire « Ne vois-tu pas le pieu où nous sommes tous ligotés ? Si nous ne pouvons nous en défaire, jamais nous ne pourrons avancer. »
Je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés, tant qu'il sera planté comme ça, n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté.
Avvisi zetam parlava, de bon matí el portava, mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca,
on estan tots lligats, si no podem desfensar, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
Vous êtes bien sur RPH Sud et Radio Pays d'Hérault, sur les chemins d'Olympe, de Gouges évidemment. Une émission qui lutte pour les droits des femmes, mais ce mois-ci, il s'agit des pères. De ces pères défaillants parce que largués face à des injonctions patriarcales que la société leur demande de remplir. Parce que la société patriarcale ne s'adresse pas qu'aux femmes. Elle impose aux hommes aussi une certaine manière d'être, une façon d'être homme, bien genré, bien tranché, pour qu'on ne s'y trompe pas. Que les rôles ne soient pas mélangés, surtout pas. Il faut que les hommes soient bien virils, et les pères, surtout, afin que leurs fils ne deviennent pas des tafioles. Parce que la société patriarcale, hétéronormée et viriliste, est homophobe. En découvrant l'homosexualité de son père, Vanessa Springora comprend aussi pourquoi, face à un père traditionnaliste, son grand-père à elle, où le genre masculin n'admettait aucun flou, son propre père ait caché son homosexualité. Et que cette somme de secrets l'est psychiquement perturbée au point de ne plus être toujours en lien direct avec la réalité. Que cette somme de secrets l'est intimement perturbée au point de n'être pas sûre de pouvoir être aimée telle qu'il était. Que cette somme de secrets l'est émotionnellement perturbée au point de laisser éclater de violentes colères. Et je ne voudrais pas retourner systématiquement aux questions des femmes de façon nombriliste, mais cela s'impose. Car ces hommes niés dans leur psychologie, dans leurs intimités, dans leurs émotions, s'en prennent aux femmes. Je ne cherche à aucun moment à trouver des excuses aux hommes violents. Mais tant qu'on ne prendra pas en compte cette dimension, il sera difficile de faire un travail efficace pour réduire les violences masculines à l'égard des femmes. C'est ça que tu veux pour ton fils ? Est-ce que c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse ? J'ai pas de conseils à te donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le. Quand il te parle, écoute-le. Le laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux.
Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse.
J'ai jamais demandé à t'avoir. C'est avec ces formules trop saoulées. Enfin faut croire que mon père a contribué à me lier avec la rue. J'ai eu l'illusion de trouver mieux, j'ai vu. C'est qu'un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge. Faut entrevoir, c'était comme un mirage. Plus d'interdits, juste avoir les temps assez longs pour croquer la vie, profiter de tout ce qui tombe. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance. Jusqu'y avec mon père était comme de la nuisance. Aucun d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego. Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines. Surtout celles qui vous tapent comme un grand coup de serein en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas à ranger ce putain d'orgueil qui tranche à les liens familiaux. Chaque jour un peu plus, j'avais pas l'impression d'être plus coté qu'une caisse à larguer. Donc j'ai dû renoncer, trouver mes propres complices, mes partenaires d'église. Désolé si je m'émisse.
Mais laisse pas traîner ton fils,
mais laisse pas traîner ton fils.
Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. On veut pas qu'il glisse.
Cette question du nom et du secret dans le livre de Vanessa Springora m'a rappelé l'œuvre de Marie Delattre, La Promesse. Elle y décrit comment elle a appris que le nom qu'elle porte n'est pas le vrai nom de son père. Le nom de son père est en réalité un nom offert. Ceux qu'elle pensait être ses grands-parents ne le sont pas, ils ont adopté son père. Je vous propose d'écouter Marie Delattre à qui j'ai posé quelques questions sur le sujet.
Je pense que c'est la naissance de mes enfants, c'est-à-dire que entre mes deux filles, je voulais faire un deuxième enfant. Et puis, d'un coup, ça m'est apparu comme une évidence que je saurais pas quoi leur transmettre. Voilà. Et je me suis dit, je peux pas remonter plus loin que mes grands-parents. Et encore, j'en sais pas grand-chose. Donc, je voulais qu'elles puissent se poser des questions. Que si elles se posaient des questions sur leurs origines, elles puissent avoir, je puisse pouvoir y répondre, en fait. Voilà. Ça a été ça, principalement. Oui, je peux ajouter aussi que probablement la mort de mon père a été le déclencheur. C'est-à-dire que j'aurais jamais enquêté sur cette histoire si mon père n'était pas mort. Voilà, ça c'est certain. Et si ma mère m'avait pas ouvert la voie, si elle n'avait pas publié un faire-part dans lequel elle parle de la déportation de mes grands-parents, si elle n'avait pas mis le kaddish dans l'église le jour de l'enterrement de mon père, je pense que je me serais jamais autorisée à rompre cet interdit.
J'ai demandé à Marie Delattre si le fait de savoir que le nom qu'elle portait n'était pas son vrai nom, le vrai nom de son père, est-ce que ça avait produit en elle une émotion particulière?
Alors, en ce qui concerne le nom de mon père, savoir si le nom que je portais en moi, le nom de Kogan, était le vrai nom de mon père et non celui de Delattre, ça n'a pas provoqué d'émotion particulière, en tout cas pas sur le moment, parce qu'à 13 ans, je n'ai pas très bien compris quand il m'a dit ça. Enfin, j'ai compris sans comprendre, je n'ai pas ressenti grand-chose. Comme quand c'est quelque chose de trop important, on ressent rien. Donc là, ça a été un peu ça. Ensuite, eh ben, encore une fois, c'est à la naissance de ma première fille, c'était très clair pour moi que je ne voulais pas qu'elle porte le nom de Delattre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai omis au point très vite avec mon conjoint. Je voulais que ce nom reste mon nom, parce que malgré tout, il est mon nom. Je ne suis ni une Delattre, ben, ni une Kogan. Donc moi, je suis quelque part entre les deux, mais je voulais que mes filles aient une histoire différente et un nom différent, qui soit vraiment le leur, qu'elles ne soient pas encombrées de ce patronyme.
J'ai demandé si elle avait senti un héritage se déposer en elle quand elle a découvert que ce nom, Kogan, était de fait le nom de naissance de son père.
Je pense justement que il signifiait plus grand-chose, c'est-à-dire que je ne savais pas lequel était le mien, et que je me suis sentie bien dans aucun de ces deux noms, parce que j'ai jamais repris le nom de Latte non plus, de Kogan non plus, puisque mon père nous l'a interdit avant sa mort, et que je dis nous parce que il l'a interdit à mon frère et moi. Ce serait peut-être une question qu'il faudrait mieux poser à un homme, parce que traditionnellement, c'est eux qui portent le nom. Voilà, je sais que mon frère, qui a une manière extrêmement différente de porter en lui cette histoire, pour autant, a jamais remis en question le fait que son nom était Delattre. Et pour lui, c'est un Delattre à part entière. Et remercier les Delattre tous les jours de le porter.
Il y a dans le secret de l'histoire de Marie Delattre et dans celle de Vanessa Springora, il y a deux hommes qui, malgré leur silence, ont laissé des traces pour qu'on les retrouve. Et je pensais aussi au roman de Stéphanie Depailly, Un puma dans le cœur, dans lequel elle parle du secret, mais d'une femme. C'est l'arrière-grand-mère de la narratrice. Et cette femme ne semble avoir laissé aucune trace, au point que la narratrice pense même souvent lâcher son enquête. Comme son nom déjà effacé, son histoire, elle l'a effacée elle-même, et elle et sa descendante n'ont laissé transpirer rien de cette histoire. Marie Delatte dit que dans son livre, l'histoire de son père a pris beaucoup de place, malgré son silence, au détriment de l'histoire de sa mère. Et il m'a semblé que, même dans leur secret et dans leur silence, que les hommes prennent de la place et que ces hommes à qui on n'apprend pas à vivre leurs émotions n'ont peut-être pas d'autre choix que de le transférer à quelqu'un d'autre. Je lui ai demandé si elle pensait que si son père avait pu vivre et communiquer réellement ce qu'il ressentait, si son histoire avait été différente.
Alors, je ne sais pas si les hommes à qui on n'apprend pas à vivre avec leurs émotions, pardon, n'ont pas d'autre choix que de la transférer à quelqu'un d'autre. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que probablement, je me suis toujours dit que c'était à moi d'écrire cette histoire parce que j'étais pas encombrée de ce nom, parce que traditionnellement, j'étais la fille et donc je n'étais pas censée le porter, même si maintenant on peut porter le nom de la mère et du père, que je le transmettrai pas à mes enfants. D'ailleurs, je l'ai pas transmis à mes enfants. Donc, en ce sens, je pense qu'effectivement, mon père me l'a transféré. Voilà. Et je me suis toujours beaucoup plus intéressée à cette histoire que le reste de ma famille, d'ailleurs. Est-ce que si mon père était resté en vie et communiqué, est-ce qu'il aurait l'histoire aurait été différente? Très probablement, simplement, en fait, mon père était une victime de ce silence lui aussi. C'est-à-dire, c'est un silence qu'il a imposé, mais c'est aussi un silence qu'on lui a imposé, puisque Pierre et Madeleine Delatte ne lui ont pas beaucoup, enfin pratiquement pas, parlé de son enfance. À partir du moment où ils l'ont adopté, donc il avait ses souvenirs, et puis ses parents, en fait, ils n'en parlaient plus. Donc tout ce que j'ai découvert, en fait, mon père ne le savait pas, notamment l'arrestation, notamment enfin les lettres, il ne les a jamais lues. Donc il y a quelque chose comme ça d'assez vertigineux de se dire que je l'écris d'ailleurs à un moment que je suis la mémoire de mon propre père, c'est-à-dire j'en sais plus sur son histoire que lui. Donc je ne sais pas si l'histoire aurait été différente. Le secret, je pense, serait resté le même et donc il aurait probablement pas pu communiquer. Après, peut-être que si on lui avait appris à montrer ses émotions et à respecter ce qu'il ressentait, enfin davantage, il aurait fait des recherches et enfin il aurait fait plus de recherches, davantage de recherches et il n'aurait pas accepté le mur que lui ont opposé Pierre et Madeleine. Et donc, ça nous aurait beaucoup libérés, oui, mon frère et moi. Mais sinon, malheureusement, non, je ne crois pas.
Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments ou me montrer ce qu'il faut faire pour être grand? Qui peut changer ce que je porte dans mon sang?
Comme on le précisait en début d'émission avec Vanessa Springora, notre nom vient d'un homme. Chacun de nos noms de femmes vient d'un homme. J'ai décidé, à l'aune de mes tout frais 18 ans, m'arracher du patronyme, m'insérer dans une histoire de femme, rejeter mon père et prendre le nom de ma mère, un matronyme. Et puis, on ne s'arrache pas si facilement de son patronyme. Je n'ai jamais pu m'en défaire vraiment. Certaines administrations demandent sans cesse le nom de naissance, mon patronyme. Je n'ai jamais réussi à faire valoir mon seul matronyme officiellement, seulement sur certains papiers, moins officiels. Parfois, je m'embrouille. Lequel est en premier? Est-ce que j'ai donné les deux noms? Un seul? Lequel? Et puis, ce matronyme, ça n'en restait pas moins le nom d'un homme. Si j'arrivais à léguer ce matronyme à ma fille, alors elle porterait le nom qui ne viendrait plus aussi directement d'un homme. Il s'en faudrait donc des générations pour que nous, les femmes, ne soyons pas destinées à toujours prendre le nom d'un homme. Comment se construit-on en tant que femme lorsqu'on porte de toute façon le nom d'un homme? Quelle image symbolique cela nous renvoie-t-il? Celle d'éternel mineur, comme le code napoléonien le souhaitait? De moins en moins, depuis la loi du 2 mars 2022, qui permet donc de prendre le nom de sa mère ou de ses deux parents à coller et dans l'ordre souhaité. Ce qui permet aux enfants de pères défaillants ou violents de ne plus subir ce poids. Mais comme le dit Johnny, eh ben c'est pas si simple. Mais si l'on inversait désormais, et si l'on ne transmettait plus que des matronymes, je vous laisse y penser avec Benjamin Bionnet et son héritage.
Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps. Si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage. Si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs. Si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants. Si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan. Si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse son plan. Si tu as peur du sommeil et que passe le temps. Si tu aimes l'automne vermeil, merveille, rouge sang. Si tu as peur de la foule, mais supporte les gens. Si tes idéaux s'écroulent le soir de tes 20 ans. Et si tout se déroule jamais comme dans tes plans. Si tu n'es qu'une pierre qui roule, roule mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec ou plutôt sans. Mon enfant.